Gloire à Dieu. Je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'Évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 24. Et je lirai à partir du verset 36. Luc, chapitre 24, verset 36. Est-ce que vous pouvez juste un peu me baisser, moi? Juste un peu. Luc, chapitre 24, verset 36. Le dernier chapitre de cet évangile. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit : Pourquoi êtes-vous troublés ? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures, et il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et moi, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. » Bien-aimés, vous êtes témoins de ces choses. C'est écrit, vous êtes témoins de ces choses. La mort, la résurrection, la visitation de Dieu, vous êtes témoins de ces choses. Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, plus que jamais certainement, c'est d'un message de vérité. Ça, c'est évident. C'est une lapalissade que de dire cela. Et vous êtes témoin de la grâce divine. Vous êtes, et vous devriez être, digne de foi. C'est-à-dire qu'autour de vous, il y a des gens qui n'ont pas d'espoir, pas d'espérance, et vous êtes là pour leur dire qu'il existe un espoir, il existe une espérance, et cette espérance est en Jésus-Christ. Je vous rappellerai également ce qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe, « La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Vous le croyez cela ? Et pourtant, dans le même chapitre d'Ésaïe 59, il est dit ceci, « La délivrance s'est retirée, le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher, la vérité a disparu. » Ça peut nous interroger quand même, parce que si la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, il y a des raisons à cela. Et il y en a une qui est toute évidente, c'est que Jésus dira « La nuit vient, la nuit vient. » Personne ne pourra travailler, ce sera plus difficile à voir. Mais il y a une autre réalité quand même, c'est que la version Semeur dit « La vérité trébuche, la vérité a disparu, la droiture ne peut approcher, la droiture ne peut y accéder. » La droiture ne peut y accéder à cette place, à cette vérité qui doit être annoncée. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des vérités que l'on connaît et puis il y a des vérités que l'on pratique. Il doit y avoir un décalage, j'imagine. Parce que si la vérité connue est pratiquée, elle passe, elle accède, elle atteint la cible, elle atteint le but. Et là, il y a comme un obstacle, elle n'y arrive pas. Il y a comme quelque chose qui fait blocage. Et certainement, ce qui fait blocage, c'est qu'à un moment donné, il y a eu un décalage entre ce que j'ai entendu et ce que j'ai compris. Vous savez qu'il y a 9 possibilités de ne pas se comprendre. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire et ce que je dis, et ce que tu veux entendre, ce que tu entends, ce que tu crois comprendre, ce que tu veux comprendre, et ce que tu comprends, il y a 9 possibilité de ne pas se comprendre. Vous saisissez? Je vous la laisse à l'écran un petit peu. Parce qu'il y a des fois, on a dit des choses, on était persuadé qu'on disait ça, et en fait, on a dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête? Et il y a des fois, il y a des personnes qui nous ont dit des choses, on les a pris comme ça, alors qu'en fait, ça voulait dire ça. Comment ça s'est tourné dans notre tête? C'est intéressant, hein? Ce que je pense, entre ce que je pense et ce que je veux dire, entre ce que je veux dire et ce que je crois dire, entre ce que je crois dire et finalement ce que je dis réellement, et puis entre ce que je veux bien entendre, ce que j'entends, ce que je crois comprendre, ce que je veux comprendre et ce que je comprends, ben, des fois il y a un univers. Il y a un univers. Voyez pourquoi, quand je parle de vérité, il y a les vérités que l'on connaît, puis il y a les vérités que l'on pratique. Entre ce que je crois connaître et ce que je connais, ce que je veux connaître, la manière dont je veux le traduire, la manière dont je veux le pratiquer, il pourrait y avoir, il pourrait, ce n'est pas une obligation, mais il pourrait, évidemment, y avoir un décalage. Alors, c'est ce que j'ai mis dans le fond. Ce serait important, certainement, d'être franc avec soi-même. Dans le livre des Lamentations de Jérémie, il est dit ceci, « Recherchons nos voies et sondons-les, retournons à l'Éternel, élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. » Ce serait bien, ce matin, après ces images. Alors, j'avais préparé mon message avant d'aller à Nîmes, donc je ne savais pas qu'est-ce qui allait se dire là-bas, mais je trouve que ça colle bien, ce que j'ai ramené comme image de cette persécution et du message qu'ils ont voulu nous laisser. Je me dis que ça colle bien, parce qu'il faut être franc. Il faut être franc avec nous-mêmes. Et je pense que ce serait bien de faire encore, ou peut-être pour cette fois-là, une vraie analyse et introspection. Est-ce qu'on est prêt à faire cela, à rechercher les voies de Dieu, à sonder nos cœurs, à retourner, s'il le fallait, à l'Éternel? En fait, je me dis que les païens ou les religieux, quels qu'ils soient, que les idolâtres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent religieux, mais ils ne sont qu'idolâtres, hein, très superstitieux, etc. Ils sont bien loin des choses réelles de la foi. Donc entre ceux qui ont 50 000 lieux, tous les païens de la terre, entre les incrédules qui ne veulent pas y croire, les agnostiques, ceux qui sont complètement athées, bref, tous ces gens-là qui vont s'abuser par de faux raisonnements, eux seront piégés par le diable dans de faux refuges, dans de fausses sécurités. Il y a des tas de gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont persuadés que l'éternité n'existe pas, qu'il n'y a rien après, et qu'il ne faut pas s'en faire pour cela. C'est un piège. Le diable les a bien leurrés, les a bien trompés. Et ils sont comme dans un refuge, mais le jour où ils meurent et que leurs yeux s'ouvrent sur l'éternité, ça va faire mal, hein ? Ça va faire mal. Donc, le diable a lancé des leurres comme cela, tout un tas de leurres. Et que ces gens-là tombent dans le panneau, ok, c'est affligeant, c'est triste, mais je peux comprendre. Mais qu'un croyant se laisse tromper et abuser, ça c'est davantage triste, ça c'est davantage affligeant ou attristant. Parce que ça ne devrait pas arriver, ça ne devrait, on devrait être clair, on ne devrait pas se laisser tromper, pas se laisser abuser. Alors j'ai choisi de revenir sur des choses que l'on dit tous les jours, parce que pour nous, elles sont d'une clarté, une évidence, c'est limpide. Mais je ne voudrais pas que l'on s'abuse soi-même et que l'on se trompe soi-même. Soyons francs et ne tombons pas dans quelques pièges. Alors, 5 refuges qui pourraient être un piège pour nous. Le premier de ces refuges, c'est cette vérité que l'on proclame tous et que l'on connaît bien. Dieu est amour. Vous y croyez, j'espère? Eh ouais, amen. Dieu est amour, il nous a sauvés par sa grâce, par son amour infini. Donc, nous sommes sauvés. Et si Dieu est amour, il est aussi miséricordieux, il est aussi patient, il est aussi compatissant, il est aussi bienveillant. Bref, il a endossé toutes les casquettes. Donc, il peut tout supporter. Et il supporte tous nos écarts. Parce que 7 fois le juste tombe, mais l'Éternel le relève toujours. Mais ne faisons pas de ces vérités un leurre, ne faisons pas de ces vérités un piège. Parce que quand même, l'apôtre Paul avait conscience de cela, Et il le dira lui-même dans ces deux textes que j'ai résumés, mais on pourrait les partager en entier dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Il est dit « Tout m'est permis à moi, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Un peu plus loin au chapitre 10 et au verset 23, il reprend la même thématique. Et là, il dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Je suis chrétien, je suis libre. » Mais je suis libre de marcher dans la sainteté. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux, sous prétexte que Dieu est amour, et que Dieu même, que des gens qui ne croient pas, se satisfassent de cela, malheureusement, on peut le comprendre. Mais qu'un chrétien se satisfasse de cela, en disant, dans le fond, ma vie chrétienne, elle est raisonnable, je ne vais pas trop loin, je ne fais pas trop d'efforts, il faut être sage, il faut en donner un peu à Dieu, mais il faut en garder quand même un peu pour soi, pour les siens, pour sa famille, etc. etc. On peut décliner ça à l'infini. Le fait est que, dans l'Épître aux Hébreux, il y a un passage qui devrait quand même nous interpeller, parce qu'il est dit ceci, au chapitre 10, au verset 28, « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Qu'est-ce que ça signifie? On le sait très bien, c'est que nous sommes sous la grâce aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Alors, béni soit Dieu, nous ne mourrons pas à cause de la loi de Moïse parce que nous connaissons la loi de la grâce. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il n'est pas venu abolir la loi. C'est écrit dans l'Évangile. Hein? Il est venu accomplir la loi. Il l'a accomplie. Donc si aujourd'hui nous sommes sous la grâce, c'est parce que lui a payé le prix de la loi de Moïse. Il l'a payé le prix. Il a souffert. Il a donné sa vie. Maintenant, je suis sous la grâce. Eh bien, ne faisons pas de cette grâce une occasion de vivre dans le péché, disait l'apôtre Paul. Ne faisons pas de cette grâce une occasion de chute. Ne faisons pas de cette grâce une occasion d'un piège et d'autosatisfaction. En étant très satisfait de notre vie chrétienne, en disant « je trouve que j'en fais pas mal quand même, je trouve que je suis bien bon chrétien, je suis bien engagé, je fais exactement ce qu'il faut ». On est sur une liste noire, mais on ne le sait pas. Mais manifestement, si on bouge pas trop les lignes, vous inquiétez pas, on ne viendra pas vous embêter. Si vous embêtez pas le diable, il ne viendra pas vous embêter. Si vous le laissez tranquille, il vous laissera tranquille. Par contre, si vous ruez dedans, par contre, si vous allez au combat, à la bataille, si vous allez rendre témoignage, si vous portez, afficher votre témoignage et votre foi, là, certainement qu'il peut y avoir des conséquences, ça peut bouger, mais quelque part, si Dieu est amour et s'il est rempli de miséricorde et de compassion, il nous aidera en toutes circonstances. Alors, ne nous trompons pas, Dieu est amour, mais si il n'y a plus la loi de Moïse qui règne nos actions, n'oublions pas qu'elle a été remplacée par une autre loi, c'est celle de la grâce. Paul dira... Je m'abstiens, je m'oblige. Et il expliquera que sa vie sera faite, entre guillemets, d'efforts. Ce qu'aujourd'hui on considérait peut-être comme des contraintes. Et ce sont des efforts parce qu'il voulait plaire à Dieu. Et bien aimé, la vie chrétienne, elle est faite d'efforts. Si votre vie chrétienne ne vous demande aucun effort, réfléchissez un instant. La vie chrétienne, ça demande de l'effort, évidemment. Et peut-être il faut qu'on s'habitue à ça si les temps difficiles arrivent. Parce que si on n'est pas habitué, ce n'est pas dans le feu de l'action qu'on va s'habituer. Hein. Certainement pas. Mais on a besoin de s'habituer, me semble-t-il, à cela. Et il y a un deuxième point, je suis désolé, j'ai été bavard, donc on fera ça sur deux dimanches. Le deuxième point, c'est de dire, je ne suis quand même pas pire qu'un autre. Hein. Évidemment, je ne fais pas tout ce que je devrais faire, mais je ne suis pas le seul. Ça, c'est des choses qu'on entend, non? Je suis le seul à les entendre? Non. Vous les entendez aussi? Alors, il y a un verset biblique très clair là-dessus, dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. L'apôtre Paul dit « Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. C'est sûr que vous trouverez toujours des gens qui font moins bien que vous. Mais vous en trouverez en pagaille. Vous en trouverez plein. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de chercher longtemps. Regardez, regardez autour de vous. Vous allez en trouver 10, non ? Si, vous allez en trouver 10. Ouais. Le problème, c'est qu'on peut toujours trouver des gens qui font moins bien. Mais moi, je peux vous trouver des gens qui font mieux, si vous voulez. Ouais, on peut en trouver aussi. Et là, ça va être plus difficile à défendre peut-être son point de vue entre ce que je veux entendre, ce que je crois entendre, ce que je pense, ce que je voudrais penser, ce que je voudrais comprendre. Bien aimé, il y a de la marge. Le pire, je pense, c'est pas de dire je suis pas pire qu'un autre, mais le pire, ce serait de se comparer en vue de se justifier. Parce que si on se compare, c'est pour se justifier. Non, on n'a pas besoin de comparaison. On n'en a pas besoin. Mais on se compare parce qu'on veut se justifier. Paul ne le faisait même pas. Pourtant, il avait l'opportunité de le faire. D'ailleurs, quand certains l'ont méprisé, il va leur dire, écoutez, vous régnez déjà ? Ben moi, pas encore. Vous avez déjà saisi toutes ces choses-là ? Ben moi, je cours toujours après. Formidable. Mais il dira que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Et dans le fond, c'était un leurre, évidemment. Paul ne le faisait pas parce que c'est un piège que de le faire, car on n'est pas objectif avec soi-même. Il faut le reconnaître, on n'est jamais objectif avec soi-même. On peut être objectif avec... les autres peuvent l'être sur nous, mais nous, on ne peut pas l'être sur nous-mêmes. Et je voudrais vous lire, enfin, ce passage du livre des Proverbes, en vous rappelant ce qu'il est dit dans l'évangile de Luc. Deux hommes montent au temple pour prier. L'un est publicain et l'autre est pharisien. Alors, ce n'est pas des habitants de pays bizarres. Le pharisien, c'est un religieux, le publicain, c'est un païen. L'un veut être croyant et l'autre ne l'est pas du tout. Les deux prient. Le religieux, il dit « Je te bénis, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, je fais ceci, je fais ça, etc. Et je ne suis même pas comme l'autre là-bas, qui est un voleur, un bandit, un truand, etc. » Le publicain, le gars qui marche sans Dieu, il se frappe la poitrine et il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Lequel des deux est rentré à la maison justifié ? Vous l'avez compris, celui qui s'est frappé la poitrine. C'était une leçon à l'intention de tous ceux qui se déclaraient justes. Et dans le livre des Proverbes, je l'ai résumé, il est une race. Il est une race. On peut le lire ensemble, ce texte, dans Proverbes, chapitre 30, et verset 12. « Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains, orgueilleux, et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer les malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. » Je prie de tout mon cœur que cette race-là ne soit pas parmi nous. Je prie de tout mon cœur que cette race-là n'existe pas au milieu de nous. Il est une race qui se croit pure. Il est une race dont les yeux sont hautains. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux. Bien-aimés, je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais vu comment ça se passe avec les migrants dans la région, peut-être que demain, on va faire un appel et on va vous dire... il faut que vous en logiez, un jour, deux jours, trois jours, un, deux, trois. Il faudra qu'on organise des choses à l'église, allez savoir. Et là, il ne faudrait pas qu'on sorte les glaives et les couteaux. Il ne faudrait pas qu'on sorte les dents en disant « Oh non, non, nous on est bien ici, on se croit pur, on se croirait élevé, on se croirait au-dessus. » Ce n'était pas du tout ce que j'avais l'intention de vous dire en substance, mais je pense que ça résonne. Et je pense que c'est important de prendre conscience de cela. Je vais terminer, on finira les trois autres points. Il y a trois autres points que nous verrons la semaine prochaine. Souvenons-nous qu'il est facile de se mettre dans un refuge, de se protéger en disant « Mais Dieu m'aime, Dieu m'a sauvé, je suis libre, tout m'est permis, tout est permis ». Il y a des choses que je ne fais pas, évidemment, je ne mens plus, je ne vole plus, ou je ne mens pas, je ne vole pas, j'essaie d'être droit, j'essaie d'être intègre. Dieu ne nous reprochera pas ce qu'on ne fait plus, mais il pourrait nous reprocher ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire. Vous voyez ? Pas simplement ce qu'on a arrêté de faire, mais ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas quand même. C'est important de réaliser cela. Je voudrais terminer avec un témoignage, là aussi, on les a entendus hier, j'ai essayé de les récupérer à la volée. Il y en a deux, je vous en lirai, je peux vous les lire les deux, et puis quitte à les relire la semaine prochaine. Le premier témoignage vient d'un jeune pasteur originaire du Zimbabwe, peu avant de souffrir le martyre pour sa foi. Il va être exécuté. Il va être exécuté. Voici ce qu'il écrit. Il est jeune, hein. Les dés sont jetés, j'ai pris ma décision, j'ai franchi le point de non-retour. Je suis devenu disciple de Christ. Je ne regarderai plus en arrière, je ne ralentirai plus ma course, je n'essaierai de prendre aucun raccourci, je ne me déroberai pas à mes responsabilités. Mon passé a été racheté une fois pour toutes. Le présent seul compte à mes yeux. Quant à mon avenir, il est assuré par mon maître. J'en ai fini de vivre misérablement, de marcher sans espérance ni foi, dominé par la peur, sans vision ni rêve de joie. J'en ai fini avec les conversations futiles, les projets miteux, les artifices pitoyables. Je n'ai plus besoin de rechercher la renommée des hommes, les promotions, les applaudissements, la popularité en tout genre. Je n'ai plus envie d'avoir toujours raison, d'être celui que l'on écoute, que l'on admire, que l'on félicite, que l'on met en avant. Je vis désormais par la foi, n'ayant besoin que de sa présence. Pour marcher patiemment dans son chemin, je puise ma force dans mes contacts avec lui par la prière. C'est lui qui me fait réussir dans les tâches qu'il m'a confiées. Ça fait drôle, hein ? Et le deuxième témoignage vient d'un évêque, Abel Musorere, qui devait diriger un congrès national africain. Et la plupart de ses prédécesseurs avaient été tués ou emprisonnés, donc il n'avait pas trop envie d'y aller. Il hésitait et il a prié. Et un de ses amis lui a envoyé un petit mot et ça l'a décidé. Voici ce que son ami lui disait, chrétiens tous les deux. « Les humains sont déraisonnables, illogiques et égoïstes, mais aime-les quand même. Si tu fais le bien, ils t'accuseront d'égoïsme ou de motivation personnelle, mais fais le bien quand même. Quand tu réussiras, tes amis seront hypocrites, mais tes ennemis seront bien réels. Pourtant, essaye de réussir quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui peut être oublié demain, mais fais le bien quand même. L'honnêteté et la franchise te rendront vulnérable, mais sois honnête et franc quand même. » Les hommes au grand cœur, pleins de grandes idées, peuvent être renversés par les plus petites gens aux esprits minuscules, mais rêvent les plus grandes choses quand même. Les humains s'apitoient sur leur sort, sur les sorts des opprimés, mais lèchent les bottes des puissants, pourtant luttent quand même pour les défavoriser. Offre au monde le meilleur de toi-même et tu seras probablement méprisé, mais donne malgré tout le meilleur de toi-même.